Salut énergie, bienvenue dans le Daily Max. Aujourd'hui, on va parler de l'intérêt de changer ses fréquentations. Mais avant que vous jugiez ce que je viens de dire, laissez-moi vous expliquer un peu plus en détail ce que je raconte. 50% de mes clients, lorsque je fais du coaching à l'OMAX, viennent me voir pour perdre du poids, récupérer leur corps d'avant ou devenir healthy. La bonne nouvelle pour moi et pour eux, c'est que ce sont des problématiques très simples à résoudre car le corps est une machine bien faite. Il suffit de changer simplement des petites habitudes dans son quotidien et tout redevient généralement vite dans l'ordre. J'ai une personne que j'accompagne depuis 1 an et demi qui a perdu par exemple 10 kilos en 6 semaines sans forcément se restreindre ou se contraindre, juste en rajoutant un peu d'exercice dans ses journées. Tout ça pour dire que la majorité de mes clients sur ces problématiques ont un surpoids entre 10 et 30 kilos avec une pratique quasi inexistante d'exercice. Bah oui, forcément, lorsqu'on a 30 kilos de plus, ça devient très compliqué de se mettre au sport. Pour rappel, avec un BMI supérieur à 29,9, vous êtes dans la catégorie obèse. Sur ma newsletter qui parle de ce sujet, j'ai mis un lien d'ailleurs pour calculer votre score. Et je pense que c'est important de le connaître. Sachez que si vous êtes dans la catégorie obèse, vous mettez en danger votre espérance de vie, que ça soit avec l'apparition de maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, des troubles musculo-squelettiques, des cancers, enfin tout plein de choses qui font que d'un coup on met en danger son espérance de vie. Mais rassurez-vous, si vous avez des kilos en trop, généralement ils peuvent, ou en tout cas de ce que je vois de mon expérience, ils se perdent très vite. C'est-à-dire que les kilos qui sont largement en trop sur un corps humain, généralement si vous mettez en place des bonnes actions, vous pouvez facilement les perdre. Donc on en revient au sujet de ce podcast, comment facilement devenir la personne que vous souhaitez devenir? Et bien tout simplement en changeant le design de votre vie. Vous le savez très bien, mais je vais le répéter quand même. Pour changer votre perception de vous-même et devenir la personne que vous souhaitez devenir, il faut changer vos habitudes quotidiennes, votre environnement et vos fréquentations. C'est le sujet d'aujourd'hui. Changer vos habitudes, bah, si vous commencez par rajouter des petites habitudes chaque matin, comme faire 10 minutes de yoga ou faire 5 pompes avant ou après vous êtes brossé les dents, alors au bout d'un moment, votre perception de vous-même changera. Vous passerez du gros flemmard qui a complètement abandonné tout espoir à une personne qui réalise chaque jour des petites actions pour avancer vers son objectif. Avant de pouvoir escalader une montagne, il faut savoir mettre un pied devant l'autre. J'aide mes clients à comprendre cela en les faisant marcher, par exemple, 1 kilomètre au début. Ça semble ridicule, mais c'est la plus haute marche qu'ils sont capables de maintenir le plus longtemps possible. Ensuite, on passe à 2 km de marche, puis 5 km de marche. Et une fois le système stabilisé, on se met à courir 500 mètres sur les 5 km, soit 10% du trajet. Puis on court 1 km sur les 5 km, soit 20% du trajet, et ainsi de suite, pour finir au bout de quelques mois à pouvoir courir 5 km sans marcher. Lorsqu'on arrive à ce niveau, la personne réalise le chemin parcouru et son énergie est décuplée. Là, on parle du changer ses habitudes. Ensuite, on a changé son environnement. Moins évident à comprendre, mais tout aussi important. Votre environnement, maison, lieu de travail, voiture, peut jouer contre ou pour vous. Lorsque j'accompagne mes clients, par exemple, sur la perte de poids, on passe du temps à redesigner leur maison, leur chambre et surtout leur placard. Imaginez l'exemple extrême suivant. Si je mets un bol de M&M's dans tous les recoins de votre maison, vous aurez beau avoir toute la motivation du monde, vous ne tiendrez pas très longtemps. En revanche, si on s'assure que dès le supermarché, vous n'achetez que des bonnes choses, que votre frigo se trouve toujours avec des tupperware prêts à consommer de bonnes choses, comme du quinoa, des brocolis, des lentilles ou autres, alors il vous sera plus simple de faire face à vos démons lorsqu'ils surgiront. Et enfin, l'objet de ce podcast 3, changer les fréquentations. Alors oui, il est plus dur à entendre car nous sommes particulièrement attachés à notre entourage. Mais attendez, laissez-moi vous expliquer. C'est normal hein, et ça fait partie de la vie. Et je ne dis pas ici, c'est important, je le précise bien, je ne dis pas ici qu'il faut supprimer ses amis. Non, loin de là. Je dis simplement que pour devenir la personne que vous souhaitez devenir, il faut rejoindre un groupe où le comportement souhaité est le comportement normal. En d'autres mots, prenez 5 minutes pour juger objectivement votre entourage. Les personnes que vous fréquentez le plus sont-elles alignées avec ce que vous cherchez à réussir ou diamétralement opposées ? Si vous commencez par fréquenter une salle de sport locale ou à participer à un bootcamp le dimanche dans le parc à côté de chez vous, peut-être trouverez-vous des nouvelles fréquentations qui vous pousseront naturellement vers où vous souhaitez aller. L'idée est simplement d'avoir conscience de l'impact des personnes que vous fréquentez le plus pour ensuite réattribuer le temps passé avec chaque groupe personne en fonction de vos objectifs. Rassurez-vous, quelques semaines peuvent largement suffire. À noter aussi que, et je le vois, sont mes clients, naturellement, si vous évoluez fortement, il se peut que vos anciennes fréquentations se retrouvent d'un coup très éloignées de ce que vous êtes devenu. C'est un risque à avoir en tête. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas des personnes qui représentent ce que vous cherchez à réussir, on a d'ailleurs créé timelef.com pour ça. Ça vous permet de trouver des gens qui représentent ce que vous avez envie de réussir. Il vous suffit d'aller sur timelef.com et de cliquer, par exemple, courir un marathon ou devenir plus healthy ou me mettre au véganisme ou tout ce que vous voulez, et vous trouverez des gens qui ont peut-être déjà réalisé ce que vous cherchez à accomplir. Et sur la newsletter que j'ai sortie sur dailymax.substack.com qui s'appelle « Envie de devenir healthy ou sportif, commencez par changer vos potes », vous retrouverez des témoignages de 9 personnes qui ont participé au challenge que j'avais lancé en mars qui s'appelait le Dailymax Challenge. Run, baby, run, où nous avons couru énormément. Et vous pourrez voir l'impact du groupe sur ces personnes. C'est, je pense, très intéressant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain, peut-être, je l'espère, pour un nouvel épisode d'Elimax. Salut énergie, c'est Maxime Barbier, vous êtes dans le Daily Max, le grand retour après 327 jours, sans rien, tout simplement, une bonne année, complètement inactive sur ce sujet des podcasts, alors pourtant c'était un truc qui me plaisait énormément, mais comme quoi, toutes les bonnes habitudes à partir du moment où on ne fait pas attention à les préserver, elles s'arrêtent d'elles-mêmes, et ce qui peut être drôle, c'est qu'à l'époque, j'accompagnais des gens et je leur disais, oui, tu n'as qu'à prendre ton téléphone, ça fait office de micro, télécharge encore et tu pourras créer ton podcast. Et si tu fais un premier pas, qu'importe ce que tu racontes, au moins dans quelques semaines, tu seras beaucoup plus avancé que quelqu'un qui n'a pas bougé. Et je me retrouve dans la personne qui n'a pas bougé. Je vous raconte tout ça parce que j'ai mon ami Charles qui est venu dans ma maison à Waraka la semaine dernière faire une expérience spirituelle. Et je lui ai donné ce conseil-là il y a un an. Il l'a suivi et depuis, il ne s'est jamais arrêté. Et son podcast Dans la Poire marche très bien. C'est un podcast sur la nutrition de manière avec de l'humour. Donc, je vous conseille d'aller l'écouter. Et moi, je me suis retrouvé face à moi-même, face à un miroir où je me suis dit, mais en fait, t'es à l'arrêt, mon pote. Donc, il serait peut-être temps de te relancer si ça te fait plaisir. Et tout plein de choses que je dis d'habitude, je me les suis dit à moi-même. L'important, c'est de commencer la stratégie des petites victoires. Lance-toi. Là, l'ennemi du bien, c'est le mieux. Ou l'ennemi du mieux, c'est le bien. Non, l'ennemi du bien, c'est le mieux. Et donc, me voici aujourd'hui. Et comme sujet, j'ai choisi l'attention, le focus. Mon livre de la semaine s'appelle Stolen Focus, Why We Can't Pay Attention by Joan Hari, qui est un journaliste. Alors, j'en suis qu'à 20% du livre, mais qui est un journaliste qui a fait l'expérience de complètement s'isoler pendant 3 mois de tout distraction, à savoir surtout Internet et tout ce qui va avec. Après, il s'est rendu compte qu'il était complètement omnibulé par son téléphone et toutes ses distractions en permanence et que sa capacité d'attention avait drastiquement chuté. Il s'est demandé si c'était que lui ou si c'était un peu tout le monde. Et au fur et à mesure de ses interviews, il en a interviewé énormément de chercheurs, de scientifiques et de médecins et de choses comme ça. Il s'est rendu compte que c'était plutôt par design que tout foutait le camp. Alors, dans les trucs que j'ai retenus qui m'ont fait écho, c'est une étude qui a été portée sur Twitter entre 2006 et 2014, je crois, un truc comme ça, où ils se sont rendus compte que les différents sujets de discussion étaient de moins en moins discutés et on switchait de plus en plus. En 2013, les top 50 des sujets étaient discutés pendant une moyenne de 17,5 heures avant de disparaître dans la plateforme, et en 2016, ce n'était que 11,9 heures. Il y a un gros drop de notre capacité à rester focus sur des choses, évidemment par design, je le dis souvent, mais c'est souvent le design autour de nous qui joue contre nous. Et là, c'est clairement ça, entre les plateformes sociales qui nous rendent complètement accro à notre téléphone avec les notifications et tout ça. Et moi, je me suis dit, mais merde, c'est un peu la même chose pour moi. Et je pense qu'on est plein sur ce sujet-là. Dans les gros sujets, en tout cas, que je vois à corriger dans ma vie, la dépendance à l'alcool, ce fait de toujours avoir besoin de boire un verre de vin, cette dépendance à ce putain de téléphone et des réseaux sociaux en est aussi un. En fait, il y a des gros sujets, je pense, à traiter, et typiquement, ce téléphone et ces réseaux sociaux. Enfin, j'ai essayé plein de choses, j'ai fait des newsletters sur le sujet, la fonction sourdine pour essayer de réduire le bruit à l'intérieur d'Instagram, ou comment gérer son téléphone avec un téléphone push, un téléphone pull. Enfin, j'ai essayé plein de trucs et au final, ça ne marche pas. Donc, je suis en train de lire ce bouquin et il est intéressant à plein d'égards. Et ce matin, Lorsque je courais, je suis dans une ville de digital nomade, extrêmement digital nomade, hein, c'est connu pour ça, Puerto Escondido. Et je me suis retrouvé, je me suis dit, mais c'est dingue quand même. On est tous ces digital nomades, tous ces gens dans des coffee shops, je les ai tous vus là en courant, ils étaient tous tout seuls sur leur ordinateur. Et on a complètement perdu notre capacité d'attention, mais aussi notre capacité d'aller à la rencontre des gens. Et je me suis dit que c'était très triste et je ne sais pas trop ce qu'on peut faire sur ça. En revanche, un truc qu'on pourrait faire, et c'est ma réflexion que je vais partager avec vous aujourd'hui sur l'attention, c'est de me dire, est-ce qu'on ne peut pas attaquer le problème en cascade ? Se dire, ok, on a un vrai problème d'attention qui est vrai, on a du mal à être dans le flow, on a du mal à rester plusieurs minutes, enfin des heures, j'en parle même pas, mais de rester plusieurs minutes sur un même sujet sans checker un email, sans checker un SMS, sans checker Instagram, sans tout ça, et au final... Eh ben, on n'a pas ces états de flow et on n'a pas cette productivité incroyable qu'on a lorsqu'on est complètement immergé dans un sujet. Et je me suis dit, bah, ça, c'est le gros problème. Et en fait, au lieu d'attaquer la montagne de plein fouet et bah, de ne pas bouger, hein, c'est de se demander quel est le plus gros sujet à l'intérieur de ce problème. En fait, quel est le plus gros problème à l'intérieur du problème ? Je m'explique, je me dis, si moi, j'ai un vrai problème d'attention, clairement, le problème, c'est le téléphone. À l'intérieur du téléphone, donc, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du téléphone ? Et j'ai remarqué que j'y consacrais 4h30, 4h27, pour être précis, la semaine dernière. En moyenne, je suis à 4h, à peu près 4h sur mon téléphone par jour, ce qui est énorme. Alors, oui, je pourrais me dire, oui, Maxime, tu lances une appli qui s'appelle Timelift, c'est une appli mobile, tu check Timelift et tout plein de choses sur ton mobile, certes, mais en vrai, c'est pas si vrai que ça. C'est pas ça qui fait que je passe 4h. Dans les deux gros postes d'énergie, donc là, pareil, on a donc ce problème, c'est la concentration. On se dit, OK, qu'est-ce qui pourrait, où je pourrais passer 20% de mon temps et d'énergie qui corrigerait 80% du problème, bah c'est le téléphone. À l'intérieur du téléphone, je me dis, OK, c'est Instagram. Instagram, j'y consacre 1h à 1h15 par jour en moyenne. C'est juste insane. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème d'Instagram? Alors, j'ai fait plusieurs trucs que j'avais déjà fait à l'époque, mais je les ai refaits. Si vous n'avez pas lu la newsletter, je vous encourage d'aller la voir. Elle s'appelle La sourdine, la fonction cachée d'Instagram, je crois, de mémoire. Et je me suis dit, OK, dans Instagram, il y a un vrai problème, c'est que Instagram me charge, m'envoie des contenus dans tous les sens, tout le temps. Donc, premier truc que j'ai fait, je me dis, mais il y a plein de contenus qui ne servent à rien. Donc, déjà, j'ai utilisé la fonction sourdine, ça c'est sûr. Il y a des gens, j'ai quand même envie de rester ami avec eux, mais j'ai plutôt envie d'avoir cette fonction de ce qu'on appelle de pull, donc de tirer l'information à moi quand j'en ai besoin, versus d'aller de la repousser alors que j'en ai pas besoin. Donc, typiquement, quand quelqu'un poste quelque chose, en fait, Instagram me pousse ce contenu alors que j'ai rien demandé et me le montre. Mais j'ai rien demandé et des fois, ça m'intéresse pas. Donc, je vais mettre en sourdine. Ce qui fait que quand cette personne, je penserai à elle, et ben, en fait, j'irai sur son compte, sur son Instagram, et c'est moi qui irai chercher l'information. Donc, je renverse un peu ça. Donc, j'ai vu tous les comptes, je les ai quasiment tous mis en sourdine, et je me suis dit, petit à petit, on va réallumer ceux qui m'intéressent. L'autre chose, évidemment, j'avais à peu près 400, donc moi, je suis pas énorme là-dessus, mais je suivais 400 personnes, et je me suis dit, mais en fait, 400, ça sert à rien, il y a beaucoup de gens qui servent à rien, en tout cas, qui servent à rien pour moi. Donc, je me suis dit, OK, allez, on va essayer de réduire à 200. Donc, j'ai supprimé 50% des gens. C'est un peu comme faire du minimalisme digital. Pour ceux qui ne connaissent pas le minimalisme, le principe, c'est de garder très peu d'affaires, mais que des affaires qui vous font du bien. Et donc, la première étape, c'est de se supprimer, évidemment, de tout ce qui ne sert à rien dans son placard. Mais généralement, c'est compliqué. Alors, on passe directement à la deuxième étape, qui est de tout mettre dans des sacs poubelles. Ce que j'avais fait il y a 5 ans, ça a été assez impressionnant à faire. Mais vous mettez toutes vos affaires dans des sacs poubelles. Et en fait, au bout d'un mois, vous vous rendez compte que vous avez sorti uniquement ce qui était important. Donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez besoin de ce jean que vous aimez. Vous pensez à ce jean, vous allez le chercher. Et vous mettez ce jean. Et ensuite, il sort du sac poubelle. Donc, il sera quelque part sauvé. C'est un peu Koh-Lanta. Et bien là, c'est la même chose sur Insta. Vous dites, OK, en fait, ah tiens, je pense à cette personne-là en particulier parce que j'aime bien ses vidéos. OK. Et bien, je vais aller la voir. Et en fait, vous estimez qu'elle mérite d'être réactivée. Et dans ce cas-là, Instagram repostera le contenu. Sauf que là, j'ai vu, ils ont fait un truc, ces gros bâtards d'Instagram. C'est qu'en fait, quand donc typiquement, j'ai quasiment plus personne dans mon feed. Donc, quand j'allume Instagram, mon feed, il me propose que 3 ou 4 nouveaux contenus à chaque fois que j'y vais dessus. Donc, c'est génial. Sauf que maintenant, Instagram, il me met des contenus que j'ai pas demandé, je sais pas d'où. Et donc, il me refait un flux de scroll infini. Mais bon, anyway. Donc, ça, c'est la première chose sur Instagram. Et donc, en fait, je me suis dit ça. Je me dis que pour attaquer des gros problèmes dans la vie, je pense qu'il faut décomposer et se demander quel est le plus gros rocher à l'intérieur du problème. Et quand on est sur le rocher, où est-ce qui est le moyen caillou qu'on peut attaquer, et ensuite quel est le petit caillou qu'on peut faire bouger. Et donc voilà, c'est ma Petite phase d'apprentissage du jour. Je suis en train de regarder mon téléphone. Ça fait 8 minutes 20. Je me suis dit que tenir 10 minutes, c'est pas mal, surtout en une prise. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Je vais essayer de maintenir le cap, de me remettre en lice là-dessus. Donc juste pour refinir, je suis en train de lire le bouquin qui s'appelle Stolen Focus, qui est sorti il y a pas très longtemps. Je crois qu'il est sorti en janvier de cette année. Et il explique vraiment pas mal de choses. Donc ça m'a donné envie d'exprimer là-dessus. Mais franchement, les impacts des problèmes de focus sur plein de choses de notre vie, c'est dingue. Il y a plein d'études qui parlent, évidemment, mais je pense que vous en connaissez certaines, sur le nombre de fois qu'un employé moyen est disturbé, est dérangé par jour. Je crois qu'un CEO d'entreprise ne passe pas plus de 28 minutes sans être interrompu ou des choses comme ça. Enfin, c'est assez dingue quand on y pense, quoi. Mais la bonne chose, bon, j'en suis pas à la conclusion encore, mais il explique que évidemment le cerveau est un muscle et que en fait à force de faire des choses, on peut aussi les réinverser. Donc il explique que essayer de faire du monotasking, pendant 10 minutes et ensuite vous êtes distrait et puis au bout d'une minute vous revenez sur 10 minutes et si vous faites ça, c'est un peu comme à la gym, comment faire un mouvement. Bah ces 10 minutes peut-être deviendront 15, 20, etc. et qu'au bout d'un moment vous serez capable de vous focus et de faire du flow pendant une heure d'affilée. Ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu il y a très longtemps qu'il faudra peut-être que je relise, qui s'appelle le Deep Work, qui est comment se reconcentrer dans ce monde évidemment très perturbé. Voilà, ça c'était dans les différentes choses qui étaient je trouve importantes. Ah oui, je suis en train de lire mes notes, mais il y avait l'histoire du pigeon et c'est un mec en psychologie qui a expliqué qu'ils ont montré que à partir du moment où il y a un reward, donc à partir du moment où il y a une récompense, on peut moduler de manière inconsciente à la fois le comportement des animaux, mais évidemment le comportement des humains, vous allez voir. Et l'histoire, c'est qu'ils ont mis un pigeon dans une cage et ils attendaient que le pigeon ait très faim. Et en fait, le chercheur, ce qu'il fait, c'est qu'à partir du moment où le pigeon fait un mouvement particulier, typiquement, je sais pas, il lève la patte gauche ou il tourne la tête à droite, à partir de ce mouvement très particulier et complètement random, le scientifique va lui donner à manger. Et à chaque fois que le pigeon va refaire exactement ce même mouvement, le scientifique va lui redonner à manger. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'au bout de très peu de temps, en fait, l'animal comprend le geste qui déclenche la récompense et se met à faire de manière frénétique le même geste. Et en fait, ils ont réussi à faire des successions de gestes et de faire en sorte que certains animaux arrivent à faire plein de choses, que ce soit faire des trucs qui peuvent paraître complexes en l'état, mais pas forcément. Donc voilà, et que bah en fait nous sur Instagram c'est pareil. Typiquement ils expliquent que bah les mecs d'Instagram sont dit qu'on va renforcer le fait de prendre des selfies en mettant des cœurs et des récompenses et des likes. Et comme un pigeon, bah en fait les utilisateurs se mettent de manière frénétique à faire des selfies dans l'espoir d'avoir un like ou un commentaire. Et donc ils estiment que nous utilisateurs d'Instagram, nous sommes des pigeons. Et peut-être dernier truc aussi, je vais finir par cette citation, enfin ce passage que je trouve intéressante, où il parle d'un mec qui fait de l'escalade. Alors je vais la traduire en live, hein, mais c'est la mystique autour de l'escalade, c'est vraiment l'escalade en soi. On pense que les gens qui font de l'escalade, ils prennent énormément de plaisir en arrivant en haut. Alors oui, ils ont une forme de plaisir, mais le vrai plaisir de l'escalade, c'est d'escalader. Et en fait certains rêveraient d'avoir des murs infinis et d'escalader non-stop, un peu comme un poète qui écrit, et en fait son but ce n'est pas forcément de finir le poème, mais c'est tout ce processus d'écriture, c'est cet acte où en fait on part à la conquête de soi, de quelque chose, et c'est en fait le flow, c'est comme on dit souvent, c'est le training qui est le plus important dans une compétition, et la compétition c'est la finalisation en fait en soi, mais une fois que la compétition est finie, le reward dure quelques instants, alors que la reward de progresser, de voir ses data, ses vitesses, enfin peu importe, whatever, se développer, c'est ça qui constitue tout l'intérêt d'être sur une seule et unique tâche. Voilà, putain, j'ai plein de choses à dire en fait. Et le dernier truc, c'est que ça me fait penser à quelque chose. J'ai eu ces flashs de cette vidéo où à un moment ça allait pas du tout dans ma vie l'année dernière. Et en fait, j'ai vu une citation d'un mec qui disait que quand tout va mal, il faut essayer de se fixer sur le plus petit point possible qui va bien et rester là-dessus. Et en gros, il dit que quand ça tangue et que t'es dans l'obscurité complète, fixe-toi sur une petite lumière, quelle qu'elle soit, et grandis à partir de là. Et en fait, ce que ça me fait penser à ça, dans le bouquin, il explique qu'il avait son frère qui allait pas très bien, je crois, avec son frère, c'est mis à se prendre passion pour les cristaux et il s'est mis d'un coup à collectionner les cristaux et sa vie a tourné autour des cristaux. Mais il avait des moments de pleine passion où il passait des heures et des journées à étudier ça et il s'est senti très bien. Voilà, bon, je vais faire court, je vais m'arrêter là, j'ai encore des choses à dire, mais je vais essayer d'en garder pour demain. C'est mon premier podcast de l'année, voire même depuis un an. Et si vous avez des feedbacks, n'hésitez pas. Et je vais le poster tout de suite sur l'ensemble des réseaux pour nourrir quelque part la machine à pigeons. Je vous dis à très vite.